et les salutations de l'église de Die. Le pasteur Philippe Martinez, son épouse Brigitte qui vous salue bien, ils se réjouissent de venir à La Chaux-de-Fonds au début novembre. Et je crois qu'on était vraiment conduits parce qu'ils ont vécu des moments très très difficiles, des situations conflictuelles, des situations de tension. Et heureusement, par la grâce de Dieu, on a pu les encourager et les bénir dans le Seigneur. Voilà, donc on est de retour parmi vous et on se réjouit, je me réjouis de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ce matin pour continuer à réfléchir et surtout à s'ouvrir à ce thème qui est le nôtre depuis quelque temps maintenant. Qui n'a pas entendu parler de l'opération Galilée? Levez la main parmi nous s'il vous plaît. Voilà. L'opération Galilée consiste à quoi? Elle consiste à faire de notre église une église qui est une église qui s'offre au Seigneur, qui suit le Seigneur, qui entre dans ce que le Seigneur a prévu pour elle, qui vit ce que le Seigneur lui a acquis par le prix de son sacrifice à la croix. L'opération Galilée, c'est une démarche qui doit nous amener à sortir de la religiosité pour entrer dans la vie de Christ. Alors là, vous paraissez peut-être étonné en vous disant, mais à moi, religieux, pas du tout. Je vais à l'église de réveil. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. On peut être très religieux dans une église évangélique, charismatique, pentecôtisante, réveillée de réveil. Et je crois que la meilleure des choses à faire, c'est de se resituer par rapport à ce que l'église primitive a vécu. Génération après génération, on a essayé de se resituer par rapport au modèle de base, qui est celui d'Actes 2, 42, par exemple. Si on réfléchit quelques instants, on constate que c'est très facile de glisser gentiment, subtilement, vers une vie religieuse, plutôt que vers une vie centrée sur Jésus, qui nous entraîne à sa suite en Galilée, là où Jésus a accompli l'essentiel de ses miracles, là où Jésus a transmis l'essentiel de son enseignement, là où Jésus a appris à ses disciples comment ils allaient devoir à un moment donné, à leur tour, continuer l'œuvre de Dieu et ne pas tomber dans une vie légaliste qui ressemble à Jérusalem, où on est entouré de murs, entouré de commandements, entouré de lois, entouré de « tu dois faire, tu ne dois pas faire ». L'église de réveil de La Chaux-de-Fonds est appelée à entrer ou à suivre Jésus en Galilée. Alors pour retourner à Jérusalem pour la Pentecôte, pas de problème. Ou même pour la crucifixion, parce que c'est là que Jésus va donner l'essentiel de lui-même, sa vie. Depuis toujours, les chrétiens sont subjugués de voir ce que l'église primitive a pu vivre, n'est-ce pas? Moi, je me souviens toujours au début de ma conversion, lorsque j'ai commencé de plonger mes regards dans la parole de Dieu, je me disais, mais ça ressemble tellement pas à ce que nous vivons aujourd'hui. Comment est-ce que ces gens en sont arrivés là? Quel a été, entre guillemets, leur secret? Bien qu'il n'y ait pas de secret, n'est-ce pas, en Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, eh bien, on apprend de ceux qui nous ont précédés en remontant aux origines, en remontant à l'église primitive. Et on a découvert, et j'ai découvert tout récemment, comme tout à nouveau, et j'avais peut-être besoin que le Seigneur m'ouvre les yeux, parce que, ben voilà, on a besoin que le Seigneur nous parle régulièrement, parfois sur le même thème, jusqu'à ce qu'on ait compris et mis en pratique. Il m'a ouvert les yeux sur l'ordinaire de la vie chrétienne des premiers chrétiens. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, ces gens, pour que Dieu puisse accomplir l'extraordinaire? Et j'ai vu quatre domaines, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ils n'ont rien fait de plus. Mais ils n'ont rien fait de moins non plus. C'est-à-dire qu'ils ont pris au sérieux. Ils ont dit, voilà le terrain dans lequel Dieu veut nous voir vivre. Et ils ont pris soin de ce terrain. Il est dit dans la parole qu'ils étaient assidus. C'est-à-dire qu'ils étaient là où ils devaient être, dans le terrain que Dieu avait prévu. Et lorsque nous sommes là où Dieu nous veut, là où Dieu peut accomplir son œuvre, lui est capable de faire l'extraordinaire. Mais on verra par la suite que de prier pour notre nature humaine et charnelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. de vivre la communion fraternelle en vérité. Parce que je peux vous dire ce que j'ai entendu a dit, c'est absolument effrayant ce que des chrétiens peuvent faire entre eux. Vivre la communion fraternelle, ça peut paraître ordinaire, mais c'est un miracle de pouvoir s'aimer, de pouvoir se pardonner, de pouvoir cheminer ensemble. De vivre la fraction du pain, c'est une grâce extraordinaire que vous ne pouvez pas vivre nulle part ailleurs dans ce monde. Il n'y a pas un seul endroit dans le monde, autre que l'Église, où nous pouvons vivre ce temps de grâce. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Et puis les prières. Ces hommes et ces femmes ont découvert les prières, pas la prière. Ils ont découvert les prières. Il n'y a là apparemment rien d'extraordinaire, mais ils ont découvert la manière de pouvoir être en communion continuelle avec ce Dieu vivant qui les avait sauvés par grâce. Cette église est un terrain modèle vers lequel nous devons continuellement revenir pour ne pas tomber dans la religiosité. Toute église, tout chrétien peut tomber dans la religiosité, dans une sorte de tradition dans laquelle j'entre, dans laquelle je me sens très à l'aise, très confortable, mais je ne sais pas si c'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Quand je lis la vie des premiers chrétiens, ce n'était pas toujours très confortable. Ils n'étaient pas toujours très à l'aise. Mais la vie de Dieu, cette vie Zoé, cette vie éternelle qui trouvait place en eux, les rendait capables d'aller à la rencontre de ces défis. Elle a été donc comme une petite Galilée en plein Jérusalem. Elle a été une source d'ébullition, de bouillonnement de vie spirituelle. En quelques mois, ils ont réussi à remplir Jérusalem de l'enseignement chrétien. Vous vous rendez compte de l'exploit? Et ces hommes, dans la simplicité qui était la leur, ont simplement vécu l'ordinaire. Ils l'ont pris au sérieux. Ces quatre domaines, ces quatre terrains, ces quatre terreaux dans lesquels Dieu va pouvoir planter des graines qui vont porter la vie et la vie en abondance. Alors que cette vie religieuse conduisait dans la stérilité. Alors ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous un moment sur un domaine, un aspect que ces hommes et ces femmes ont pris au sérieux et dans lequel ils ont connu une assiduité, c'est-à-dire ils ne se sont pas arrêtés en cours de route pour pouvoir évoluer dans le royaume de Dieu, dans les réalités du royaume de Dieu. Il y a des choses que nous devons faire continuellement, pas seulement une fois dans sa vie, et dire oui, mais il y a bien longtemps en arrière, j'ai fait ceci, et j'en ai vécu les conséquences, la bénédiction, et puis par la suite, j'ai laissé ça de côté. Nous voyons que la vie, notre vie humaine aussi est faite de choses répétitives, n'est-ce pas? Mais elles sont répétitives, pourquoi? Parce qu'elles nous poussent plus loin, parce qu'elles nous entraînent plus loin. C'est pas parce que vous avez appris un jour à l'école quand un font deux, que vous avez arrêté de progresser dans l'arithmétique, n'est-ce pas? Ça vous a donné la porte d'entrée vers quelque chose qui devait vous conduire plus loin. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un domaine qui peut paraître apparemment ordinaire. J'aimerais vous parler de la prière de repentance. Et vous verrez combien ce sujet, lorsqu'il est pris au sérieux, quand on persévère dans ce qu'est la prière de repentance, où elle nous conduit, et les conséquences qui découlent ensuite sur notre vie. Pour introduire ce sujet, j'aimerais lire avec vous dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, à partir du verset 14. Et on vous l'a dit, ces cultes, ces messages sur l'opération Galilée, doivent aussi t'entraîner, toi, à devenir une pièce maîtresse de cet immense rouage de Dieu. Tu as ta place. Le Seigneur veut t'utiliser aussi pour apporter ce qu'il va mettre dans ton cœur. Et notre Église doit s'ouvrir. Elle doit être un tremplin pour ta propre vie spirituelle. Tu dois pouvoir trouver dans ce lieu une libre expression de ce que Dieu te donne pour l'édification commune. Amen. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomboit point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Priez pour les frères et sœurs. 6 fois, dans ce court passage de l'épître de Jacques, il est question de prière. Ces hommes et ces femmes avaient compris l'importance de la prière, des prières. Et parce qu'ils priaient, des choses se passaient. L'Église primitive avait compris l'importance de la prière de repentance. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'arrêter ce matin. Ils persévéraient dans les prières. L'Église primitive persévérait dans ce domaine et c'est ce qui lui a permis de maintenir la vie Zoé, la vie de Dieu en son sein. Elle lui a permis de se manifester de façon naturelle, régulière, dans le champ qu'elle représentait, une terre franche. Une église qui vit la prière de repentance, individuelle ou communautaire, comme nous le verrons dans quelques instants, est un terrain favorable à l'action de l'Esprit de Dieu. Et l'église primitive avait compris ce fondement-là. Elle ne l'a jamais abandonné. Et lorsqu'on lit les évangiles, lorsqu'on lit les épîtres, jusqu'à l'Apocalypse, on retrouve ce terme continuellement. Ça fait partie de la vie ordinaire d'un chrétien vivant. Amen. Alors, qu'est-ce que signifie d'abord confesser ? Bien, c'est avouer, déclarer, reconnaître ce qu'on aurait voulu garder secret. Alors encore une fois, on ne va pas parler sur le mode opératoire. Hein. Il y a différents lieux où confesser, il y a différentes manières de le faire. Je ne vais pas forcément venir ici devant vous en confessant tous mes péchés devant chacun. Parfois ça peut se faire en petits groupes, parfois ça peut se faire avec les anciens, parfois ça peut se faire avec l'ensemble de l'Église. Là, il faut un minimum de sagesse quand même. Mais c'est un immense privilège que de ne pas garder secret des choses qui écrasent nos vies. Moi, je rencontre des gens tous les jours qui sont écrasés par les secrets qu'ils gardent en eux et qui les empêchent d'être libres, qui les empêchent de respirer, qui les empêchent d'être bien, même des chrétiens. Donc, le privilège de l'Église, c'est de confesser. Le privilège du chrétien, ton privilège, c'est de confesser. Et puis, quand je confesse, alors je me repens. Quand je fais sortir quelque chose de moi qui est de l'ordre du secret pesant, je vais être amené à avoir de vifs regrets. Je bénis le Seigneur pour la première repentance de ma vie. J'étais tout seul dans ma chambre. Je connaissais à peine ce qu'était la vie chrétienne. Je connaissais à peine l'Écriture. Et j'étais là dans ma chambre et je me repentais devant le Seigneur. Je ne savais pas ce vers quoi ça allait m'amener. Et tout d'un coup, des larmes sont sorties de mes yeux. Mon cœur était saisi. C'était tellement bon et beau de pouvoir vivre ce moment. Me repentir. Et le repentir doit m'amener automatiquement à ce que le mot grec signifie métanoïa, à la métanoïa, c'est-à-dire un changement de mentalité. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es, si ce n'est que l'Esprit de Dieu, que la parole de Dieu vienne maintenant donner à ton intelligence, à ton esprit, à ta sagesse, la sagesse de Dieu. Et là, ta mentalité va commencer de changer. Elle va se convertir. Elle va faire un demi-tour sur elle-même. Et ensuite, tes intentions vont commencer de changer. Je ne pouvais pas, comme on dit ici, piffrer mon voisin. Je n'y arrivais pas pendant des mois et des années. J'avais même de la haine, mais ce n'est pas moi, hein, mais je prends un exemple. Hein. Parce que moi, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Mais... voilà, mais je n'y arrivais pas. Chaque matin, j'essayais de partir avant lui au travail, de ne pas aller avec lui dans l'ascenseur quand il remontait. Non! Et j'ai vécu une métanoïa, un changement de mentalité. Tout d'un coup, j'ai trouvé au fond de mon cœur de l'amour pour cet homme. Oh! D'où c'est que ça vient? Peu cher. Voilà où la repentance nous conduit. Au changement de mentalité, d'intention et d'action. J'ai commencé d'inviter mon voisin avec sa femme, parce qu'elle est quand même plus sympathique que lui. Et puis, il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Puis il y avait 3 enfants encore, donc il y a un peu de diversion. Hein. Si ça ne se passait pas trop bien, on pouvait toujours glisser. Voilà. Donc, l'importance de la repentance. Et l'Église primitive a offert ce terrain à Dieu. C'était quelque chose d'ordinaire. Et Dieu, à cause de cela, a pu accomplir l'extraordinaire. Ce qui dépasse l'entendement humain. Des transformations incroyables. Une force incroyable que ces hommes ont reçue alors qu'ils étaient, ces femmes aussi, ont été persécutées. Alors, intéressant de voir tout d'abord, lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse, pas toujours évident, mais il y a des trésors cachés, des richesses enfouies qu'on découvre dans la persévérance de la lecture. Et on voit à un moment donné, et c'est ce que j'avais terminé par cela lors du dernier message, puisqu'on avait permis au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, n'est-ce pas? Parce que nous-mêmes, on ne sait même pas là où il y a peut-être un péché, peut-être une résistance, peut-être quelque chose qui n'a plus besoin d'aide dans notre vie. Mais l'Esprit de Dieu le sait. Et quand l'Esprit de Dieu sonde nos cœurs et nos reins, pouf, il s'arrête sur un aspect. Parce que s'il s'arrêtait sur 5, on s'écroulerait, on ne pourrait pas. Donc dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu vient toucher un aspect de ta vie, de ma vie. Et puis dit, maintenant on va commencer de travailler ensemble là-dessus. Hein? Ce petit bout de champ de ta vie, est-ce que tu es d'accord que je m'en occupe? Ben, on hésite parfois. Hein? Mais quand on laisse le Seigneur agir, il peut se passer des miracles. Alors, à un moment donné, au début du livre de l'Apocalypse, il est dit que l'Esprit de Dieu va agir dans les différentes églises qui avaient été constituées à l'époque. Et puis, il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse ou de Sardes ou de Pergame, etc. Et c'est très intéressant de voir, ça concerne une église tout entière, pas une personne. Il aurait très bien pu y avoir écrit à l'église de la Chaux-de-Fonds. À l'église. Ça veut dire qu'on est tous concernés. Devant Dieu, on peut être qu'un seul corps. Et on voit très clairement que dans la majeure partie des églises, il y a cet appel à la repentance. Le Seigneur soulève ce qui est bon dans cette église, et puis il lui dit, mais à cause de cela, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi donc, ou elle ne veut pas se repentir. Donc on voit que pour Dieu, c'est un terrain qu'il recherche. Lorsqu'il pose son regard sur l'église de réveil de la Chaux-de-Fonds, il va rechercher ce terrain. Est-ce qu'il existe le terrain de la repentance? Il voit toutes nos bonnes œuvres. Il sait tout ce que nous avons fait dans sa grâce, suite à un appel, à un défi qu'il nous demandait de relever, etc. Il connaît tout ça. Mais il cherche le terrain de la repentance. Il cherche là où les choses doivent encore évoluer. Parce que Dieu ne se contente pas de cela. On l'a vu, il a donné sa vie pour la totalité, pour l'ensemble des bénédictions, pour l'ensemble de l'héritage. Il n'a pas dit, bon, pour la Chaux-de-Fonds, c'est un 25e de l'héritage, et puis pour Neuchâtel, c'est un 50. Non. Il veut nous bénir de toutes les bénédictions spirituelles. Alors, on voit que pour certaines églises, il n'y a pas de critique. Par exemple, Smyrne, il n'y a pas de critique. Philadelphie non plus. Il les encourage. Mais là où il y a besoin, le Saint-Esprit révèle la chose. Alors écoutez bien cela. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est la clé qui nous ouvre au royaume de Dieu. Il fut un temps où tu ne faisais pas partie du royaume de Dieu. Où pour toi, le royaume de Dieu était une pure ignorance. pendant 23 ans, 24 ans de ma vie, je n'ai pas pensé un seul instant au royaume de Dieu. Ça ne faisait pas partie de mon univers. Et un jour, quelqu'un m'a parlé du royaume de Dieu. Or, c'était très intéressant. Mais comment faire pour y entrer? Comment faire pour avoir part au royaume de Dieu? C'est une énigme. Énigme et aventure, vous connaissez? C'est vraiment une aventure. Et pendant des semaines et des mois, j'ai lutté à l'intérieur de moi-même. Une partie de moi tendait vers ça et une autre partie de moi me tirait vers le bas. Mais tu ne vas quand même pas quitter ta vie d'aujourd'hui. Tu ne vas pas abandonner ce que tu es en train de faire. Au fait de la gloire, au niveau sportif, heureux dans ton travail, mais tu ne vas pas quitter tout ça. Et il y a eu des tiraillements terribles. Mais la repentance est venue. À un moment donné, et ça c'est une pure grâce de Dieu, qu'on soit saisi à l'intérieur de nous-mêmes pour reconnaître notre état, pour confesser ces choses secrètes. Et ça, c'est un des moments les plus glorieux de la vie d'un être humain. Le jour où tu as pu confesser ton péché, où tu as pu te repentir, c'est le moment le plus important après le jour de ta naissance. Qu'est-ce qu'a dit Jésus lorsqu'il a commencé son ministère? Quand on commence un ministère, on a envie de dire les choses justes. Hein? On n'a pas envie de se planter. On a envie d'être... voilà. Qu'est-ce que Jésus va dire dans Marc au chapitre 1, verset 15? Il disait... Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Réfléchissez bien. Faites-en un sujet philosophique. Repentez-vous. Plus simple, tu ne peux pas. Plus simple, tu ne peux pas. Le royaume de Dieu s'approche de cette humanité pécheresse, hors du royaume de Dieu, et la seule chose que Jésus dit à ceux qui le suivaient en Galilée, repens-toi. Alors vous me direz peut-être qu'à l'époque, le mot repentance avait une consonance, avait un poids peut-être plus fort qu'aujourd'hui, je ne sais pas. Mais Jésus n'a rien dit de plus. C'est la clé, il te donne une clé. La clé de la repentance. Vous avez un trousseau de clé avec vous? Ben regardez si elle est après. Pour entrer dans le royaume de Dieu, la clé de la repentance. Parce qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie avec le royaume de Dieu qui est proche d'eux. Mais ils n'y entrent pas. Ils n'y entrent pas. Parce qu'ils n'utilisent pas la clé que Jésus voudrait leur donner. Acte 2, 38. L'église primitive qui commence. Alors là aussi, on ne peut pas se planter, parce que si on se plante, ça s'est déjà tellement mal passé. Il y a eu l'arrestation de Jésus, la crucifixion. Les gens ne croient absolument pas à la résurrection, à part ceux qui étaient proches de Jésus. Alors imaginez le premier message que vous ayez à donner à ce moment-là, devant une foule hostile, devant des gens qui ont encore en souvenir, mais alors comme ça, les journaux... pleine page, Jésus enfin crucifié, mis dans un tombeau, terminé, on n'en parle plus, tournez la page. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il utilise cette clé de la repentance devant une foule hostile, devant des gens qui n'en ont rien à faire de Jésus. Et à partir de ce moment-là, 3000 personnes vont se convertir. Pierre ne fait que l'ordinaire. Il n'a pas préparé un discours d'une intelligence et d'une hauteur philosophique extraordinaire. Il est devant ces gens, il leur dit, repentez-vous dans la puissance du Verbe. Il leur a dit l'essentiel. Et ces gens ont entendu l'essentiel parce qu'ils savaient à partir de ce moment-là qu'ils pouvaient entrer sur le terrain de la repentance. Chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Encore une fois, la clé qui ouvre, c'est la repentance. Chapitre 5, verset 30-31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ pour donner à Israël quoi? la repentance et le pardon des péchés. Dans Acte 11, Pierre, de retour de sa mission parmi les païens, c'est la première fois qu'un apôtre allait dans un endroit jugé hostile, qui n'était pas cachère, hein, chez un païen, chez Corneille, chez un Romain. Il y va. Ben, c'est vrai qu'il a reçu la vision quelque temps auparavant. Puis il expose les faits à tous les autres apôtres, à tous ceux qui étaient réunis à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a accordé aux païens, aux goïms, la repentance afin qu'ils aient la vie. » Rendez compte? Mais ils ont tout compris, ces gens-là. Ils ont tout compris. Ce n'est pas compliqué. Et moi, je suis à chaque fois émerveillé de voir avec quelle simplicité Dieu nous invite à l'essentiel. C'est nous qui compliquons tout. Un mot pour dire l'essentiel. Un mot qui, une fois vécu, nous entraîne dans l'autre mot, qui nous entraîne à un autre mot, qui nous entraîne dans la vie de Dieu. Un mot. Et nous, on a besoin de 6 années de théologie à l'université. Alors, j'ai rien contre, on se comprend bien, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit aussi, ajoute à ta foi la connaissance. Et j'espère que vous êtes inscrits au cours, hein, qui va commencer prochainement. Non, mais c'est vrai, c'est une évidence même. Si vous n'avez pas la connaissance, votre foi, elle reste à l'état d'embryon. Vous aurez juste la foi pour être sauvé. Mais Jésus a payé le prix pour qu'on puisse faire beaucoup plus de choses par la foi. Donc, en un mot, Dieu t'ouvre le royaume de Dieu. Et ça sera une suite de mots. On a entendu ce matin, confesser la parole de Dieu, parce que c'est une parole vivante. Pas comme la parole de la plupart des politiciens, des grands philosophes qui passent des heures et des heures à remuer tout ça de manière stérile. Quand tu entres dans une parole, tu entres dans le royaume de Dieu. Tu entres dans la présence de Dieu. Une parole. Et c'est pourquoi, dès notre naissance spirituelle, on est déjà, on est pris par un verset. Vous vous rappelez ces moments glorieux? Vous avez commencé de lire la Bible et vous êtes tombé, tout par hasard, parce qu'il y en a des qui font comme ça, « Seigneur, montre-moi, tac !» Tout par hasard, il tombe juste sur le bon verset. C'est au début, hein, parce qu'après le Seigneur, il dit, « Bon, ben voilà, hein, tu sors du berceau maintenant, et puis voilà, tu y vas. Hein. » Mais c'est ça, une parole pour changer de mentalité, pour nous amener dans des intentions qui sont celles de Dieu, pour nous entraîner dans l'action qui est celle de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pas compliqué, hein? Dieu ne complique pas les choses. Et c'est pour ça que, en voyant cette image de ces hommes et de ces femmes qui suivaient Jésus en Galilée, d'un endroit à l'autre, qui vivaient cette parole, qui la voyaient s'actualiser, là, en face de leurs yeux, où ces paroles qui étaient prononcées par Jésus, qui descendaient au plus profond de leur cœur, et qui provoquaient une joie, un bien-être qu'ils n'avaient jamais vécu jusque-là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On s'enferme dans nos 4 murs à Jérusalem, et puis on devient des pharisiens, des sadducéens, des scribes, et on veut dire à la place de Jésus ce qu'on a à faire, etc. Non, Dieu est simple, archi-simple, et la vie de Dieu est simple, mais elle nous entraîne à l'essentiel. À tel point que Jésus, et je le répète parce que je l'ai déjà dit dans un message, va dire à ces hommes religieux, il les aime, mais il n'aime pas la façon dont ils s'y prennent pour entraîner les gens, soi-disant, dans la présence de Dieu. Il leur dira, écoutez bien, c'est très fort, et c'est le danger qui nous guette aussi. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous rendez compte? Ma tradition peut annuler la parole de Dieu. Si ça, ce n'est pas de la religiosité, alors j'y comprends plus rien. Et sans s'en rendre compte, tu peux annuler la parole de Dieu à cause de ta religiosité. Mais moi, je vais tous les dimanches matin à l'église de réveil. J'écoute le message. Je ne comprends pas grand-chose, mais j'écoute. Non, j'essaye de mettre en pratique. Je prends la Sainte-Seine tous les dimanches. Puis je vais au repas, quand il y a de la place encore. Mais je vais au repas. C'est toujours plein quand il y a des repas. C'est magnifique. Non, mais vous voyez? Et puis, dans la réalité, quand je suis, moi, confronté à une parole de Dieu, je vais la lire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oh, non, non, ça va très bien comme ça. Hein? Parce qu'elle vient me défier. Parce qu'elle vient révéler qui je suis. Parce qu'elle vient mettre la lumière là où la lumière doit être mise. Et puis je ferme ma parole, je l'annule au profit de ma tradition. Donc voyez combien c'est facile de tomber dans une sorte de religiosité. Puis après on s'étonne que ça marche plus, ça avance pas. Toutes ces promesses qui m'avaient été faites au début de ma vie chrétienne, ben j'en vois pas vraiment les fruits. Mais est-ce que je me suis déjà posé la question où j'en suis? Alors, j'en reviens à la repentance. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Qu'as-tu fait? Mais d'abord, qu'avons-nous fait? Puisque on a vu que ça concernait toute une église entière. Qu'avons-nous fait de la repentance? Moi, il y a longtemps que j'entends plus des chrétiens, des gens, des frères et sœurs se repentir dans une prière de repentance. Or, c'est pas une accusation. C'est simplement de se dire, mais est-ce que ça fait encore partie de la vie ordinaire d'un chrétien normal? Qu'avons-nous fait de la confession? Combien de fois est-ce que tu t'es confessé à un frère ou une sœur, ici, ou là-bas, ou avant? Et c'est tout d'un coup, dans ces moments-là, qu'on se dit, oh ben ouais, ben c'est vrai. Ben, je ne vis plus ça depuis un bon moment maintenant. Et je porte des choses, entre guillemets, secrètes. Alors, bien sûr, on est prêt à se déplacer du côté de Lausanne, ou je ne sais pas, où on attend la venue du grand ministère qui enfin va faire la différence. Moi, ce n'est pas ce que je vois dans la vie de l'Église primitive. Il y avait une telle confiance entre eux, il y avait un tel réalisme de dire, oh, mais si on vit ça, il va se passer ça. C'est normal, c'est naturel, ça fait partie de la réalité du royaume de Dieu. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Dieu nous dit, repentez-vous. Dieu nous dit, croyez. Dieu nous dit, confessez vos péchés. Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. Dieu nous dit, convertissez-vous. Dieu nous dit, soyez baptisés. Dieu nous dit, recevez le don du Saint-Esprit. Et nous, il nous faut 10 ans, 15 ans, 20 ans pour entrer dans une parole. Des fois, je me dis, mais Seigneur, ben, le péché, il est vraiment là. Hein? Il est vraiment là. Alors, ce qui est magnifique, c'est que, encore une fois, on a lu cet état des églises de l'Apocalypse. Alors, encore une fois, certaines passent. C'est bon, le terrain est franc. Dieu peut accomplir son œuvre. Puis, il y a des églises qui doivent se repentir. Pas de tout, mais de se repentir. Et c'est un chemin de délivrance. C'est une porte ouverte vers plus loin. Ces églises sont appelées à entrer plus avant dans le royaume de Dieu. Alors je vais terminer par un exemple majeur de la simplicité avec laquelle Dieu aborde le sujet du péché, par exemple, et les complications extrêmes dans lesquelles notre chair nous conduit ou nous fait marcher. Vous connaissez l'histoire de Caïn, n'est-ce pas ? Une histoire toute simple, pas compliquée, pas besoin de faire des études de théologie pour ça. Il est question du récit où Caïn offre un sacrifice pour entrer dans la présence de Dieu. On est tout au début de l'histoire du péché. Donc ils doivent apprendre. Ils ne savent pas comment faire, vraiment. Comment on fait pour entrer dans la présence de Dieu? Vous savez, vous? Qu'est-ce qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, tout au départ, avant qu'on ait fait quoi que ce soit? L'œuvre de Christ, c'est-à-dire ce qu'il a fait pour nous, le sacrifice. Comment tu peux entrer dans la présence de Dieu? S'il n'y a pas le sacrifice de Christ, impossible. La route est fermée, barrée. Donc, l'humanité doit apprendre. Et Caïn et son frère Abel vont apprendre. Abel, lui, il sacrifie un agneau de son troupeau. Il vient parce qu'il est agriculteur, il est berger, pardon. Voilà, il prend un agneau et il l'amène devant Dieu. Et Dieu reçoit son sacrifice. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est bon. Tu peux entrer parce que un autre a payé à ta place. C'est déjà l'annonce du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de Jésus. Puis Caïn, lui, ben, il vient avec 100 kilos de patates, ses carottes, quelques poros, et puis il place ça devant l'autel, enfin, sur l'autel du sacrifice. Et lui, il dit, non, non, Caïn, pas comme ça. Caïn, au lieu de confesser, ben, Seigneur, je te demande pardon, je savais pas. Ah, c'est vraiment sympa que tu me montres comment faire pour entrer dans ta présence. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'irriter. Il va se bloquer. Il va s'endurcir. Il va se laisser entraîner dans son incrédulité, dans le chemin du péché, qui va faire de lui à la fin un meurtrier. Mais vous rendez compte, à ce moment-là, si Caïn avait eu un tant soit peu d'humilité, il aurait tout simplement fait ce qui était juste. D'ailleurs, c'est Caïn, si tu fais ce qui est juste, tu ne vas pas t'irriter. Caïn, ce jour-là, aurait pu apprendre. Il aurait pu découvrir ce qu'est la confession, la repentance. Il en aurait vu les fruits immédiats. Parce que le sourire sur le visage de Dieu serait revenu. Dit Caïn, voilà, c'est bien, c'est comme ça. Là, je peux agréer ton sacrifice. Tu es mon enfant chéri, bien-aimé. Viens dans ma présence et je vais te montrer la suite. Eh ben non. Caïn, lui, ben, il s'endurcit et il passe à côté. Alors, ce n'est pas ce matin qu'on va répondre à cette question, mais à un moment donné, on doit y arriver. Et pas seulement individuellement, mais en église. Moi, je rêve de ces moments. Waouh, je suis pas allé à l'église mardi soir, je vais confesser mes péchés. C'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Te dire, je peux aller dans un lieu sécurisé. Alors, encore une fois, hein, là où vous en êtes, vous allez peut-être vous approcher d'une ou deux personnes parce que vous avez confiance, parce que vous les connaissez. Vous allez vous approcher peut-être du pasteur ou des anciens, peu importe la manière, mais c'est possible. Dimanche passé, j'ai donné mon message, j'ai aussi parlé de la confession. À la fin, il y a un homme qui s'approche de moi et qui me dit, voilà, écoutez, il venait de servir la Sainte Cène. Puis il me dit, est-ce qu'on pourrait se voir lundi, j'ai besoin de vous parler. Et il m'a partagé le secret de son cœur. Je me disais, waouh, Seigneur, là, c'est gros, hein. Parce que nous, il y a les petits péchés, les péchés véniels, comme on l'appelle, puis les gros, les péchés mortels, ben ouais, on en est là. Et là, j'aurais pu être écrasé par ce que cet homme m'avait partagé. Mais je connais la parole de Dieu. Et je savais que cet homme était entré dans la parole de Dieu. Confessez vos péchés les uns aux autres. Mais moi, je connaissais le verset ou le passage suivant qui nous dit, si tu confesses ton péché, le Seigneur est fidèle et juste pour te pardonner et pour s'en rappeler à toujours. Ah, alors quoi? Effacer. Vous savez ce que ça veut dire, effacer? Et quand je me suis souvenu de ce verset parce que je l'ai lu, parce que je l'ai médité, parce que j'étais à sa rencontre, pour moi, ça a été un énorme moment de libération. Je n'avais pas à me charger du péché de mon frère. Il l'a confessé, on a prié, il s'est repenti. Et moi, je crois en la parole de Dieu. Lui en haut, il a entendu, il a pardonné et il a effacé. Et je suis reparti de là, libre de toute cette histoire. Alors, où en es-tu? Où en sommes-nous? Comment le vivre? Ça, c'est une question que je vous pose à vous. La vie de l'Église, on n'est pas en communauté comme l'Église primitive qui vivait 24 heures sur 24. Donc, on est obligé d'imaginer des moments, des temps en Église. Et quand on vit ces temps, les prières, ben, pendant des années, c'était une tradition. Mardi soir, et voilà, la prière. Bon, il y a ceux qui venaient, 4, 5, 6, 10, 12, hein, ces derniers temps, on était une vingtaine, un peu plus. Ouh, le réveil. Et puis, il y a cette prise de conscience qui dit, waouh, une réunion de prière où je peux aller, où je peux déposer devant l'un ou l'autre ou confesser mes péchés. Je vais ressortir d'ici en étant libre dans la vie, afin qu'ils aient la vie éternelle. Et ça, ça change la vie de tous les jours. Alors, je vous laisse cette question, on va se poser des questions ces temps, et puis on va, c'est votre privilège, réfléchir sur la manière dont on peut vivre ça. Parce que ça aussi, c'est une tradition. Le pasteur, il est payé pour penser à notre place. Hein? Et c'est lui qui donne, bien sûr, s'il est pasteur, il va quand même donner une certaine ligne, voilà. Mais ça serait tellement plus beau qu'on se dise, ouh là là, mais ça nous concerne tous. Vous imaginez si 50, 60, 70, 80, 90 personnes se retrouvent ici et vivent un temps de repentance. Ah moi, on va vivre l'ordinaire. Hein? Mais alors, l'extraordinaire, ça va suivre derrière. Ce n'est pas possible autrement. Parce que c'est les lois spirituelles. Quand je fais juste, ça m'entraîne plus loin. Quand je fais faux, stand-by. Jusqu'à ce que j'aie appris la leçon. Amen. Je m'arrête là. Et je prie pour moi aussi. Seigneur, merci de nous avoir rappelé ce matin que tu es un Dieu d'amour, c'est vrai. Mais qu'en même temps, tu es tellement simple à notre égard. Je te remercie de ne pas avoir fait de nous des intellectuels à n'en plus finir, des gens qui discutent et qui perdent leur temps, Seigneur, sur le sens des mots. Merci d'avoir utilisé des mots dans ta parole qui sont compréhensibles. Et pardonne-nous, Seigneur, de ne pas y entrer avec simplicité. Pardonne-nous, Seigneur, de compliquer les choses si souvent, de les rendre difficiles par nous-mêmes, alors que tu les as rendues si simples pour que nous ayons part au royaume de Dieu, pour que ce royaume de Dieu soit visible dans nos vies, dans cette église, dans cette ville de La Chaux-de-Fonds. Seigneur, trouve au milieu de nous ce terrain de la repentance. Trouve au milieu de nous, ou suscite à nouveau au milieu de nous, cette joie de la repentance dans les larmes. Parce que tu en as payé le prix. Au nom de Jésus.